Bonjour, vous êtes sur CFM pour votre émission Namasté. Alors avant de commencer cette émission de bien-être et de détente, vous pouvez vous installer confortablement dans un endroit tranquille, baisser les lumières. Vous pouvez également vous déchausser pour être plus à l'aise. Asseyez-vous sur un tapis et pour ceux qui sont moins souples, sur une chaise ou un fauteuil bien dur, de façon à ne pas vous affaisser car il est important de garder son dos bien droit pour éviter des tensions et des douleurs. Alors, dans la première partie, nous allons parler aujourd'hui du sari. Dans la deuxième partie, nous continuerons toujours avec la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine. Dans la troisième partie, nous ferons quelques petits exercices physiques. Alors, je rappelle que ce sont des exercices très basiques car il est très difficile de présenter à la radio une grande diversité d'exercices et de difficultés croissantes. Nous ferons également une petite pratique de méditation bouddhiste tibétaine et nous terminerons sur une phrase à méditer. Les mythes indiens font du tissage une métaphore de la création de l'univers. Le sutra, ou fil, est la base, tandis que le sutradhara, qui est le tisserand, est l'architecte ou le créateur de l'univers. L'étymologie du mot sari vient du sanskrit sati, qui signifie tissu. Alors ce mot a évolué dans les langues prakrit d'abord en sadi et fut ensuite anglicisé en sari. La civilisation indienne a toujours valorisé le vêtement sans couture comme un vêtement consacrant la pureté. Être habillé d'un vêtement d'une seule pièce favoriserait l'unité intérieure. Encore aujourd'hui, une femme qui porte d'autres vêtements dans son quotidien s'enroulera toujours dans un sari pour accomplir une cérémonie sacrée. En Inde, beaucoup de femmes portent le sari à longueur d'année et en toutes circonstances, que ce soit pour dormir ou aller travailler et même pour accoucher. Pour les Indiens, le sari est le vêtement féminin le plus élégant et excitant qui se puisse être. Il souligne les formes féminines, voile tout en révélant. Et comme chaque femme est unique, on ne trouve pas deux saris identiques. Alors les trois capitales du sari sont Varanasi, Chanderi et Kanjivaram dans le sud de l'Inde. À Bénarès est aussi connu pour ses brocarts, parfois réalisés avec des fils d'or ou d'argent sur de la soie. Le sari se compose d'une bande de tissu de 5,50 m par 1,10 m, ornée en haut et en bas par une bordure et se termine à une des extrémités par une bordure plus large et plus décorée qui forme le pallav. Le pallav s'enroule autour des épaules et peut venir recouvrir la tête. Il reprend le thème et les différentes tonalités du corps du sari et de ses deux bordures dans une sorte de répétition, d'amplification à la manière d'un raga. Les deux bordures étroites seraient comme l'introduction et le pallav serait le chant lui-même. Que le motif soit tissé, brodé, peint ou imprimé, il doit maintenir les proportions et l'équilibre entre le corps du sari, les bordures et le pallave. Avant de porter le sari, une bande de coton reprenant la couleur du sari est cousue le long de la bordure du bas de façon à assurer la tombée du sari. Les femmes font coudre également un choli ou une blouse assortie à la couleur dominante. Souvent, un morceau de tissu reprenant les motifs des bordures prolonge le sari et sert à la confection de la blouse. Enfin, un jupon de coton assorti est indispensable pour maintenir le drapé. Alors, les femmes les plus fortunées achètent également un set de bracelets qui complètent la toilette de très jolies manières. Il y a différentes façons de draper le sari et la mode s'exprime parfois sur la manière de placer le pallave. Au fur et à mesure de la pratique de la méditation, on va développer une conscience de plus en plus claire de ce qui se passe, de ce que l'on vit. On a vu dans les émissions précédentes que souvent les phrases se répétaient, que souvent dans la philosophie de la méditation bouddhiste tibétaine, on emploie les mêmes mots, les mêmes termes, mais c'est simplement pour essayer de bien en comprendre le sens, de bien s'en imprégner, parce que pour nous les occidentaux, c'est pas du tout facile de comprendre spontanément ce qu'est la philosophie de la méditation bouddhiste. Donc voilà pourquoi on répète souvent les mêmes termes. Donc il faut savoir que le fait de réfléchir à ces enseignements, à ce que l'on lit, évidemment ça va nous prendre du temps et ça ne va pas non plus être facile parce que ça va nous demander un effort. Chaque jour, il va falloir se mettre sur son coussin pour méditer quelques instants. Et tant que l'habitude ne sera pas prise, cela va être difficile. Il va falloir se l'imposer car c'est tellement plus facile de s'asseoir dans un fauteuil bien mou et de fumer une cigarette. Mais évidemment, l'effet au long terme ne sera pas le même. Donc c'est pourquoi il est important d'aller de temps en temps pratiquer en groupe. Nous avons la chance d'avoir des centres bouddhistes un peu partout en France. Et si cela nous paraît loin, pour aller en Dordogne ou à Lavaur, puisque ce sont les deux centres les plus près de chez nous, il y a aussi des KTT ou des groupes du Dharma. Il y en a à Albi, il y en a à Montauban, il y en a un à Rodez, et il y en a un à Villefranche, donc c'est quand même très pratique de pouvoir trouver dans le groupe une impulsion, une bouffée d'énergie qui va nous aider à nous poser sur notre tapis après au quotidien. Il faut savoir justement qu'à Villefranche, ce groupe du Dharma, le siège est dans mon atelier à Villefranche, et nous organisons tous les premiers samedis du mois une mini-retraite pour justement créer un effet locomotive pour ceux qui veulent acquérir une régularité dans la pratique de la méditation. En groupe, il y a moins de distractions et de perturbations que lorsqu'on pratique seul chez soi. Le groupe est porteur et on va être de plus en plus dans ce qu'on fait. Même si plus tard qu'on soit en groupe ou seul, c'est pareil, au départ, c'est plus facile de pratiquer en groupe. Lorsqu'on est en groupe, il y a une entraide naturelle qui prend place. Le fait de s'asseoir ensemble crée un environnement qui nous apaise. Et donc, Pour développer cette motivation à méditer, il est important occasionnellement de pratiquer avec d'autres personnes parce que ceux-ci vont nous entraîner à la pratique personnelle et puis chaque jour, on va prendre un peu de temps pour pratiquer tout seul et ça va devenir de plus en plus facile. Parce que nous allons créer une habitude de la pratique. Encore une fois, il est important d'intégrer la méditation comme nos gestes quotidiens. Tout comme on prend la douche ou qu'on déjeune à midi, prendre l'habitude de méditer tous les jours. Parce que la méditation va nous permettre d'apaiser l'esprit. Alors, ça ne veut pas dire que nous n'aurons plus d'émotions, mais nous allons les vivre moins durement. Parce que nous allons entraîner notre esprit à prendre de la distance entre ce qui s'élève en nous, nos émotions, et donc un calme va comme ça se développer dans notre être. Le mouvement des émotions ainsi sera plus fluide. Lorsque les émotions vont s'élever, on va se rendre compte qu'il y a la tension, la nervosité et qu'on est pris par l'ignorance et que l'ignorance génère des émotions et que les émotions nous amènent à la souffrance. Et tout ça, spontanément, on va en prendre conscience en post-méditation. Et là, avec la pratique de la méditation, avec l'écoute des enseignements, avec la réflexion que nous allons avoir sur la pratique, sur les textes, on va voir l'ignorance, on va voir les émotions et on va peut-être en faire autre chose que de la souffrance. On ne va pas ajouter de la souffrance à la souffrance. L'étude, la réflexion et la pratique vont nous permettre de vivre les situations plus facilement. Les situations vont être moins dures parce qu'on va en comprendre les causes. On va comprendre par soi-même ce que l'on vit, pourquoi on le vit. Vivre la spiritualité, c'est voir ce qui se passe et quoi qu'il se passe. Il y a des moments où nous sommes positifs et d'autres où nous sommes négatifs. Et l'essentiel est de voir comment ça marche, car l'important, c'est de développer la clarté de l'esprit, d'être de plus en plus lucide. Il est important de poser un regard sur soi. La méditation va nous aider à nous regarder tel quel. Et là, on va se rendre compte qu'on n'est pas toujours comme il faut. Et il faut accepter qu'on est imparfait. Et la méditation va nous aider à trouver des réponses. On va se rendre compte que tous les êtres ont besoin de certaines choses. Nous avons tous besoin du sourire des autres, de l'amour des autres, de la reconnaissance des autres. Mais essayons de commencer par nous-mêmes à le donner, d'aller vers les autres. Et plus on va pratiquer et plus on va aller à la rencontre des autres. Tout le monde est bien d'accord qu'il faut aider tous les êtres, mais évidemment, cela ne suffit pas de se dire il faut aider tous les êtres. Aider les êtres signifie qu'il faut mettre en œuvre dans notre vie quotidienne et pas de se dire maintenant je dois être bon et je dois aider tous les êtres, mais plutôt s'essayer à la rencontre avec les autres dans notre vie quotidienne, tout en sachant que nous avons des limites, que notre ego est bien là et que nous ne pourrons donner que selon nos possibilités. Au départ, lorsqu'on va commencer à pratiquer, cela va être pour soi. Mais petit à petit, l'esprit sera de plus en plus posé, donc de plus en plus ouvert, et là, on va commencer à voir les autres et à vouloir aussi que les autres soient paisibles, heureux. On a tous des qualités à développer, mais ces qualités ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Il faut savoir qu'on a tous un côté positif et un côté négatif, et c'est à nous à rencontrer l'un et l'autre pour dissiper l'un et faire mûrir l'autre. L'un étant le négatif et l'autre étant le positif. Alors, nous enchaînons avec des petits exercices physiques. Donc, soit vous êtes assis sur une chaise en gardant les jambes bien parallèles entre elles, le dos bien droit, la tête bien droite dans l'axe. Soit vous êtes debout, écartement des pieds à peu près deux doigts, pieds parallèles entre eux, le dos bien droit. Vous allez commencer par faire des rotations d'épaules, de l'avant vers l'arrière, montez bien vos épaules et descendez-les. Mouvement ample, sans à-coups. Sentez bien les tensions du haut du dos tomber une à une. Le mouvement doit être agréable. Ne forcez pas. Faites tranquillement vos rotations d'épaule. Maintenant, vous partez dans l'autre sens, de l'arrière vers l'avant. Faites toujours des cercles avec vos épaules. Mouvement bien ample. Restez avec le dos bien droit, avec la tête droite également. Cet exercice doit vous faire l'effet d'un massage du haut du dos. Deuxième exercice, vous allez assouplir un petit peu les cervicales en faisant des demi-cercles de gauche à droite et de droite vers la gauche. Donc, amenez le menton lentement vers le sternum, puis remontez vers l'épaule gauche. Puis, amenez à nouveau le menton vers le sternum et remontez lentement vers l'épaule droite. Puis à nouveau descendez le menton vers le sternum, puis remontez vers l'épaule gauche. Descendez sur le sternum, puis remontez sur l'épaule droite. Encore une fois, descendez sur le sternum, remontez sur l'épaule gauche, puis descendez sur le sternum. Et remontez sur l'épaule droite. Voilà, ramenez la tête droite dans l'axe et vous allez faire des grands cercles avec votre bras droit. Donc montez votre bras d'avant en arrière. Faites des cercles lentement, tranquillement, sans forcer, en gardant le buste fixe. Puis vous faites la même chose avec l'autre bras. Montez le bras d'avant vers l'arrière en faisant des grands cercles sans tourner le buste. Le buste reste fixe et le mouvement est toujours ample et sans à-coups. Ensuite, ceux qui sont assis, vous allez vous mettre debout parce qu'on va faire un petit travail d'équilibre. Et en même temps, un assouplissement des chevilles. Donc, vous allez monter le talon droit, bien porter le poids du corps sur la base des orteils. Puis, vous posez le talon et vous montez le talon gauche. Vous passez bien sur la base des orteils gauche. Et vous continuez ainsi tranquillement. Vous passez d'un pied sur l'autre. Vous montez votre pied au maximum à chaque fois. Et toujours pareil, le dos reste bien droit. Et le mouvement devient de plus en plus souple, de plus en plus léger. Vous serrez les paumes sur poitrine, vous arrêtez le mouvement des chevilles. Et vous expirez en gardant bien les paumes serrées sur poitrine. Puis en inspirant, vous montez lentement les bras et tirez bien vos bras au-dessus de votre tête. Essayez de tendre un maximum vos bras en serrant le ventre, en serrant les fessiers pour protéger les lombaires. Puis en expirant, descendez les bras de chaque côté du tronc. On recommence, serrez les paumes sur poitrine, vous expirez lentement. Sans bruit, puis vous inspirez, vous montez lentement les bras, Amenez les mains au-dessus de votre tête, puis étirez complètement, au maximum, mais sans forcer. Et en expirant, descendez les bras sur le côté, lentement. Encore une dernière fois. Toujours les paumes serrées sur poitrine. On inspire, montez lentement les bras. Amenez les mains au-dessus de votre tête. Toujours les paumes serrées l'une contre l'autre. Puis vous étirez au maximum. Et vous expirez en laissant descendre les bras de chaque côté du tronc. Eh bien, nous enchaînons avec la pratique de la méditation bouddhiste tibétaine. Donc, soit vous asseyez sur votre tapis. Le mieux pour la méditation bouddhiste tibétaine, c'est d'être assis sur un coussin un peu dur, si on est par terre, bien sur une couverture roulée en boule et poser juste le bord des fesses, en fait, juste pour caler le bassin, de façon à garder le dos bien droit. Et donc, on est assis en tailleur, mais les jambes ne doivent pas être croisées l'une sur l'autre, hein, pour ne pas ralentir la circulation du sang, mais juste les jambes doivent être l'une devant l'autre. Hein. Et les genoux doivent toucher le sol. Alors évidemment, quand on n'a pas un bassin trop souple, c'est difficile d'avoir les genoux posés au sol. Donc pour ne pas tirer quand même sur les genoux, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est de placer un autre petit coussin sous les cuisses, de façon à ce que les cuisses posent sur les coussins. Et donc comme ça, les genoux sont beaucoup moins sollicités et vous n'aurez pas de tension dans les genoux ni dans le bas du dos. Alors pour ceux qui sont sur une chaise, c'est toujours pareil, hein, vous êtes assis sur votre chaise, les jambes parallèles entre elles les mains sur les cuisses, paumes des mains tournées vers le ciel. Voilà, et vous essayez d'être complètement détendu. Dans tous les cas, vous gardez toujours le dos droit, les épaules tirées en arrière et vers le bas, et la tête droite dans l'axe. Toujours les yeux ouverts de façon à ne pas se couper du monde extérieur. Et vous pouvez détendre les muscles du visage par un léger sourire. Souvent, si vous avez vu des statues ou des images des Bouddhas, ils ont tous un léger sourire. Et faites-en l'expérience, le fait d'avoir un sourire détend les muscles du visage. Voilà pour la posture, donc c'est très important d'avoir la bonne posture pour pouvoir acquérir le calme de l'esprit. Donc gardez les yeux ouverts, et si vous avez besoin d'un support, soit vous pouvez placer une petite bougie devant vous et regarder la flamme de la bougie, soit allumer un bâton d'encens et regarder le point rouge du bâton d'encens, soit une image qui vous inspire le calme, la détente, soit vous centrez sur le va-et-vient du souffle, juste l'air qui entre, l'air qui sort par les narines. Parce qu'au début, c'est vrai que si on n'a pas un support pour la méditation, c'est très difficile de voir tout ce qui s'élève en nous et développer le calme et la tranquillité à travers toutes ces émotions, toutes ces agitations qui nous parasitent l'esprit d'instant en instant. Si vous avez une grande habitude de la méditation, vous pouvez simplement garder les yeux ouverts à l'horizontale et être ainsi en état d'ouverture complète, complètement ouvert aux cinq sens, sans saisir quoi que ce soit et être simplement l'observateur de tout ce qui s'élève en nous et tout ce qui s'élève autour de nous. Un peu comme lorsque on va voir un film, on est tranquillement assis dans son fauteuil, on regarde le film, on voit tout, mais en fait on sait que c'est un film, on ne s'identifie pas à ce qu'on voit et du coup on reste paisible. Pour la méditation, c'est pareil, il faut arriver à acquérir cet état là, c'est-à-dire tout voir, tout entendre, mais ne rien saisir, laisser simplement les choses défiler sans s'attacher à l'émotion qui pourrait s'élever par rapport à ce qu'on voit ou à ce qu'on entend. Essayer de développer un état neutre et sans concept. Restez tranquille, ouvert. Rien ne nous dérange. On observe cette manifestation qui change, qui se transforme d'instant en instant, sans commenter, sans juger, sans étiqueter. Simplement rester dans cet état de paix et d'ouverture.
Thank you.
Alors, nous enchaînons avec la phrase du jour qui est un proverbe arabe. Ce qui est passé a fui, ce que tu espères est absent, mais le présent est à toi. Voilà, nous arrivons au bout de votre émission Namasté. Donc, je vous souhaite une bonne continuation et vous dis à très bientôt peut-être.
चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम
सानुशरासनं रजतादृशृङ्गनिकेतनं सिञ्जिनीकृतपन्नगेश्वरमच्युतानलसायकम् क्षिप्रदग्धपुरत्रयं त्रिदिवालयैरपि वन्दितं चन्द्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः पादप पुष्प गंध पदांबुज द्वय शोभितम् पंच पादप पुष्प गंध पदांबुज द्वय शोभितम् भाल लोचन जात पावक दक्त मन्मथ विग्रहम् भस्मदिग्ध कलेवरम् भवनाशनम् भवमव्ययम् चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः मत्तवारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम् मत्तवारण मुख्य चर्म कृतोत्तरीय मनोहरम् पंकजासन पद्मलोचन पूजितांद्रिसरोरुहम् देव सिंधु तरंग सीकर सिक्त शुभ्र जटाधरम् चंद्रशेखर माश्रये मम किं करिष्यति वै यमः
चंद्रशेखर 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 पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम चंद्रशेखर चंद्रशेखर पाहि माम चंद्रशेखर 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 रक्ष माम
राजसखं भगाक्षहरं भुजंग विभूषणं शैलराजसुता परिष्कृत चारुवामकलेवरं क्वेडनीलगलं परश्वदधारिणं मृगधारिणं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम् कुंडलीकृत कुंडलेश्वर कुंडलम वृषवाहनम् नारदादि मुनीश्वर स्तुत वैभवं भुवनेश्वरम् अंधकांतकमाश्रितामर पादपं शमनांतकं चंद्रशेखरमाश्रये मम किं करिष्यति वै यमः भैषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणम् भैषजं भवरोगिणाम् अखिलापदामपहारिणम् दक्षयज्ञ विनाशनं त्रिगुणात्मकं त्रिविलोचनं भक् ಮುಕ್ತಿಫಲಪ್ರದಂ ಸಕಲಾಘ ಸಂಗ ನಿಬರ್ಹಣಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೆ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷಮಾ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷಮಾ
ವತ್ಸಲಮರ್ಚಿತಂ ನಿಧಿಮಕ್ಷಯಂ ಹರಿದಂಬರಂ ಸರ್ವಭೂತಪತಿಂ ಪರಾತ್ಪರಮ ಪ್ರಮೇಯಮನುತ್ತಮಂ ಭೂಮಿವಾರಿನ ಭೂಹುತಾಶನ ಸೋಮಪಾಲಿತ ಸ್ವಾಕೃತಿಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮಃ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನ ತತ್ಪರಂ ವಿಶ್ವಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನಂ ಪುನರೇವ ಪಾಲನ ತತ್ಪರಂ ಸಂಹರಂತಂ ಅಥ ಪ್ರಪಂಚಮಶೇಷ ಲೋಕನಿವಾಸಿನಂ ಕ್ರೀಡಯಂತಂ ಹರ್ನಿಶಂ ಗಣನಾಥಯೂತ ಸಮನ್ವಿತಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಮಾಶ್ರಯೇ ಮಮ ಕಿಂ ಕರಿಷ್ಯತಿ ವೈ ಯಮ ಮೃತ್ಯುಭೀತ ಮೃಕಂಡು ಸೂನು ಕೃತಸ್ತವಂ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ ಮೃತ್ಯುಭೀತ ಮೃಕಂಡು ಸೂನು ಕೃತಸ್ತವಂ ಶಿವ ಸನ್ನಿಧೌ ಯತ್ರ ಕುತ್ರ ಚ ಯಪಟಿನೈ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಭಯಂ ಭವೇತ್ ಪೂರ್ಣಮಾಯುರ ರೋಗಿತಾಮಖಿಲಾರ್ಥ ಸಂಪದಮಾದರಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಏವ ತಸ್ಯ ದದಾತಿ ಮುಕ್ತಿಮಯತ್ನತಃ
ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ 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 ರಕ್ಷಮಾಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಚಂದ್ರಶೇಖರ